Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive. On va explorer ensemble un sujet vraiment captivant.
Ah oui.
Le Wirtschaftswunder. C'est le nom qu'on donne au miracle économique allemand après la Seconde Guerre mondiale.
Exactement.
Vous êtes prêts pour une plongée dans l'histoire?
Absolument. On va décortiquer ce phénomène ensemble.
Super.
On va voir comment cette période de croissance incroyable a permis de reconstruire l'Allemagne.
Oui.
Mais on ira plus loin. On ira plus loin que l'aspect économique.
D'accord.
On va aussi voir comment le Wirtschaftswunder a joué un rôle important dans la stabilisation, la démocratisation et la modernisation du pays.
Exactement. Et pour bien comprendre tout ça, on a plein de sources super intéressantes, des chiffres, des analyses économiques et même des témoignages de gens qui ont vécu cette période. On va vraiment essayer de vous donner une vision complète du Wirtschaftswunder.
Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Imaginez, en une dizaine d'années, l'Allemagne passe d'un pays en ruine à une puissance économique mondiale.
C'est fou. Pour commencer, on peut peut-être regarder les chiffres de plus près. J'ai lu des statistiques incroyables sur cette période.
Oui, les chiffres donnent le vertige. Par exemple, le revenu national de l'Allemagne de l'Ouest a plus que doublé entre 1949 et 1958.
Ah oui.
On parle de 75 milliards de Deutschmarks en 1949
Ouais.
et 168 milliards en 1958.
C'est énorme. Et j'imagine que les exportations ont aussi explosé pendant cette période.
Absolument. Elles sont passées de 12 milliards à 68 milliards de Deutschmarks pendant la même période.
Incroyable.
Et le chômage, qui était un problème majeur après la guerre, a pratiquement disparu en 1961.
Ah ouais.
On est passé de 2 millions de chômeurs en 1950 au plein emploi.
Wow, c'est une vraie renaissance. Mais est-ce que ce miracle allemand était un cas unique ou est-ce que d'autres pays ont connu une croissance similaire après la guerre?
C'est une excellente question.
Ouais.
En fait, le Wirtschaftswunder s'inscrit dans un contexte plus large. Entre 1946 et 1975, on a ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, une période de boom économique dans beaucoup de pays industrialisés. La France, l'Italie, le Japon, les États-Unis,
Ouais.
ils ont tous connu une forte croissance après la guerre.
Donc l'Allemagne n'était pas un cas isolé.
Voilà.
Mais j'imagine qu'il y a quand même des éléments spécifiques qui expliquent le succès du Wirtschaftswunder.
Bien sûr, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte.
Oui.
On parle souvent du plan Marshall aide financière américaine, mais ce n'est qu'une partie de l'explication.
Ah oui, c'est vrai. On entend souvent dire que le plan Marshall a sauvé l'Allemagne, mais si ce n'est pas la seule raison, qu'est-ce qui a vraiment permis ce miracle économique?
Il ne faut pas sous-estimer le rôle de Ludwig Erhard, un économiste allemand. C'est lui qui a mis en place le modèle de l'économie sociale de marché,
D'accord.
la Sozialmarktwirtschaft en allemand.
La Sozialmarktwirtschaft. C'est un terme un peu compliqué.
Oui.
Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement?
En gros, c'est un modèle qui essaie de combiner les avantages du libre marché avec une certaine protection sociale. L'idée, c'est de laisser les entreprises libres de produire et de vendre tout en aidant les plus faibles.
C'est un peu comme un compromis entre le capitalisme pur et dur et une vision plus sociale de l'économie.
Exactement. Et ce modèle a très bien fonctionné en Allemagne.
D'accord.
Il a permis de créer de la richesse tout en limitant les inégalités.
Oui.
C'est une des clés du succès du Wirtschaftswunder.
D'accord. Donc la Sozialmarktwirtschaft a joué un rôle important,
Oui.
mais il y avait aussi d'autres facteurs. Non.
Oui, bien sûr. Après la guerre, le Deutschmark, la monnaie allemande, était sous-évaluée. Cela a rendu les produits allemands très compétitifs à l'exportation.
Ah oui, ça explique pourquoi les exportations ont explosé.
Exactement. Ensuite, il y avait une main-d'œuvre abondante et qualifiée.
Oui.
Il y avait beaucoup de réfugiés venus d'Allemagne de l'Est. Et l'Allemagne a aussi accueilli beaucoup de Gastarbeiter, c'est-à-dire des travailleurs immigrés venus d'autres pays européens.
Et j'imagine que l'Allemagne a aussi investi massivement dans la modernisation de ses industries.
Absolument, on a reconstruit les usines, on a adopté de nouvelles technologies.
Ouais.
La reconstruction était déjà bien entamée avant même que l'aide du plan Marshall n'arrive en force.
Donc le plan Marshall n'était pas la seule explication.
Voilà.
C'est une histoire plus complexe qu'on ne le pense souvent.
C'est ça.
Mais au-delà des chiffres et de la croissance économique, quel a été l'impact du Wirtschaftswunder sur la vie des Allemands?
Ah, ça, c'est une question fascinante. Imaginez, on passe d'une société marquée par la pénurie et les restrictions à une société d'abondance. Les revenus augmentent, le temps libre aussi.
Oui.
Et soudain, les Allemands ont accès à une multitude de biens et de services comme jamais auparavant.
C'est le début de ce qu'on appelle la société de consommation.
Exactement.
On a hâte d'en savoir plus. Mais on va s'arrêter là pour le moment. On reprend notre exploration du Wirtschaftswunder dans la prochaine partie.
Restez avec nous.
À bientôt. Alors, on reprend notre exploration du Wirtschaftswunder.
Oui.
On a vu comment l'économie allemande a décollé après la guerre.
Exactement.
Maintenant, on va plonger dans l'univers de la société de consommation. Accrochez-vous, ça va swinger.
Oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment la vie quotidienne des Allemands a-t-elle été transformée par ce boom économique? On parle d'un changement radical, non?
Absolument. On passe d'une société marquée par la pénurie et les restrictions à une société d'abondance. L'historien Ulrich Herber décrit très bien ce passage.
Oui.
Les revenus augmentent, le temps libre aussi.
Quoi?
Et du coup, les Allemands ont accès à une multitude de produits et de services comme jamais auparavant.
C'est le début de ce qu'on appelle la Konsumgesellschaft, la société de consommation.
Oui.
C'est un peu comme si on ouvrait les vannes et que tout le monde pouvait profiter du gâteau, non?
Exactement. Et ça se voit concrètement dans plusieurs domaines.
D'accord.
Prenons l'exemple du logement.
Oui.
Dans les années 50, on assiste à une construction massive de logements sociaux. Beaucoup de familles peuvent enfin accéder à un meilleur confort, à un chez-soi plus spacieux.
Et bien sûr, il y a la voiture.
Ah oui.
La fameuse Volkswagen Coccinelle devient un symbole de cette nouvelle prospérité.
Tout à fait.
C'est la voiture du peuple accessible à tous.
Oui, c'est un excellent exemple. Herbert souligne que le nombre de voitures en Allemagne a triplé en 10 ans seulement.
C'est incroyable.
Imaginez passer d'une époque où la voiture était un luxe
oui.
à une époque où elle devient bien presque banale.
C'est fou. Ça montre à quel point le Wirtschaftswunder a transformé la société allemande.
Oui.
Mais la voiture, c'est plus qu'un simple moyen de transport, non?
Bien sûr, la voiture, c'est la liberté, l'indépendance.
Oui.
C'est la possibilité de partir en vacances, de découvrir de nouveaux horizons. C'est aussi un symbole d'ascension sociale, de réussite.
C'est fascinant de voir comment un objet matériel peut prendre une telle importance symbolique. Et la télévision aussi, elle joue un rôle important dans cette nouvelle société de consommation.
Absolument. À la fin des années 60, presque tous les foyers allemands ont un téléviseur.
D'accord.
La télévision devient le cœur de la vie familiale.
Oui.
On se réunit pour regarder les émissions, les informations, les films.
On peut imaginer l'impact que ça a eu sur la culture allemande. Soudain, tout le monde partage les mêmes références, les mêmes images.
Exactement. La télévision crée une culture commune. Elle influence les modes de vie, les goûts.
Oui.
On voit apparaître les premières publicités, les stars de la télé. C'est une révolution.
Et l'Allemagne, elle se situe comment par rapport aux autres pays occidentaux dans cette course à la consommation? Est-ce qu'elle suit le mouvement ou est-ce qu'elle a ses propres spécificités?
L'Allemagne suit la tendance générale, mais il y a quand même des nuances.
D'accord.
L'historien Hartmut Kalbe a beaucoup travaillé sur la question. Il souligne le rôle important de la publicité et du marketing en Allemagne.
Oui.
On met en place des stratégies de vente très efficaces pour promouvoir les nouveaux produits.
C'est l'avènement de la société de consommation dans toute sa splendeur. On veut inciter les gens à acheter toujours plus, à suivre les dernières tendances.
Tout à fait. Et Kalbe note aussi l'importance de la standardisation des produits.
D'accord.
Les marques internationales se développent, on retrouve les mêmes produits partout dans le monde. C'est le début de la mondialisation.
Mais est-ce que tout le monde profitait de cette abondance? Ou est-ce qu'il y avait des inégalités, des gens qui étaient exclus de cette société de consommation?
Bien sûr, il y avait des inégalités.
Oui.
Tout le monde ne bénéficiait pas de la même manière du Wirtschaftswunder. Mais globalement, on peut dire que la prospérité a touché une grande partie de la population.
D'accord.
La classe moyenne s'est considérablement développée pendant cette période.
Et cette nouvelle prospérité, est-ce qu'elle a eu un impact sur les valeurs des Allemands? Est-ce que ça a changé leur façon de voir le monde?
Oui, absolument. On observe un glissement des valeurs traditionnelles vers des valeurs plus individualistes,
oui.
plus centrées sur le confort matériel, les loisirs, la réussite personnelle. On s'éloigne de l'austérité de l'après-guerre. On embrasse une nouvelle vision du monde plus optimiste, plus tournée vers l'avenir.
C'est une vraie rupture avec le passé. Mais on sait bien que toute médaille a son revers.
Oui.
Le Wirtschaftswunder, avec tous ses succès, a aussi suscité des critiques, des remises en question.
Tout à fait, on va explorer ces aspects moins glorieux dans les prochaines parties.
D'accord.
On verra comment certains ont dénoncé les excès de la société de consommation, les inégalités persistantes, le manque de confrontation au passé nazi. Restez avec nous pour la suite de notre plongée dans le Wirtschaftswunder.
On a vu les côtés positifs du Wirtschaftswunder, l'incroyable transformation de l'Allemagne après la guerre. Mais comme pour tout phénomène historique, il y a aussi des aspects moins reluisants.
Oui, c'est important de nuancer le tableau. L'Allemagne de l'après-guerre, malgré sa prospérité, n'était pas un paradis. Il y avait des tensions, des injustices, des problèmes que le Wirtschaftswunder n'a pas pu résoudre.
Tu parles des critiques qui ont émergé à l'encontre du modèle du Wirtschaftswunder.
Oui.
J'imagine qu'elles portaient sur différents aspects de la société allemande.
Exactement. Un des points de friction, c'est la question du passé nazi après la guerre.
Mmh.
Il y avait une tendance à refouler ce passé douloureux, à vouloir tourner la page,
Oui.
sans vraiment se confronter aux crimes du régime nazi.
Oui, après une telle tragédie, on peut comprendre le besoin de passer à autre chose, de reconstruire.
C'est vrai, mais certains intellectuels, certains artistes ont dénoncé ce silence,
Oui.
ce manque de réflexion critique sur le passé.
Mmh.
Ils estimaient que l'Allemagne ne pouvait pas se reconstruire sur des bases saines sans un véritable travail de mémoire.
C'est un débat important qui a d'ailleurs refait surface avec force quelques années plus tard, pendant les mouvements étudiants de 1968. Tout à fait un autre sujet de critique, c'est la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes. On a évoqué les rôles traditionnels auxquels les femmes étaient encore confinées.
Oui, on a vu que malgré le boom économique, les femmes n'ont pas bénéficié des mêmes opportunités que les hommes, l'accès à l'éducation, aux professions, aux postes à responsabilité, tout cela restait inégal.
Exactement, le Wirtschaftswunder, même s'il a apporté une amélioration générale du niveau de vie, n'a pas vraiment remis en question les structures patriarcales de la société allemande.
Et l'arrivée massive des Gastarbeiter, ces travailleurs immigrés, a sans doute aussi créé des tensions, des problèmes d'intégration.
Oui, c'est un défi que l'Allemagne a partagé avec beaucoup d'autres pays européens à l'époque. L'intégration des Gastarbeiter n'a pas toujours été facile. Ils étaient souvent confrontés à des conditions de travail difficiles, à des discriminations, à un racisme latent.
C'est un aspect du Wirtschaftswunder qu'on oublie souvent.
Oui.
On se focalise sur les succès économiques, mais il faut aussi se souvenir de ces populations qui ont contribué à la prospérité du pays sans toujours en partager les bénéfices.
C'est important de le souligner. Et puis, il y a eu aussi une critique plus fondamentale de la société de consommation elle-même. Certains intellectuels, certains artistes ont dénoncé l'uniformisation des goûts, le matérialisme, la superficialité de cette nouvelle société.
Un peu comme si le bonheur se résumait à posséder toujours plus de biens matériels.
Exactement. On craignait que cette course à la consommation ne conduise à une perte de sens, à une aliénation, à une forme de vide existentiel. C'est un questionnement qui reste d'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, on se pose toujours la question du sens de la croissance, de l'impact de la consommation sur notre environnement, sur nos relations sociales.
C'est fascinant de voir comment le Wirtschaftswunder, avec ses succès et ses contradictions, a ouvert des débats qui sont toujours pertinents aujourd'hui. Mais, pour replacer tout ça dans un contexte plus large, comment peut-on situer le Wirtschaftswunder dans le processus de modernisation de l'Allemagne?
Le sociologue Andreas Wackwitz propose un modèle intéressant pour comprendre les différentes phases de la modernité.
Oui.
Il place le Wirtschaftswunder dans ce qu'il appelle la modernité organisée ou industrielle.
C'est-à-dire ?
C'est une période caractérisée par la production de masse, la consommation de masse, l'émergence d'une classe moyenne importante, l'intervention de l'État pour réguler le capitalisme. En gros, c'est l'âge d'or de la société industrielle.
Et l'Allemagne de l'après-guerre correspond parfaitement à ce modèle, non ?
Oui, le Wirtschaftswunder incarne cette modernité industrielle dans toute sa puissance, mais Reckwitz souligne aussi que cette phase a ses limites, ses contradictions internes.
On a vu les critiques qui ont émergé à l'époque.
Exactement. Et à partir des années 68-70, on assiste à une transition vers ce que Reckwitz appelle la modernité tardive.
C'est une période marquée par quel changement ?
C'est l'époque de la mondialisation, de la tertiarisation de l'économie, de l'individualisme expressif, de la montée des inégalités. On entre dans un nouveau modèle de société avec ses propres défis.
Et l'Allemagne, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, va devoir s'adapter à ces nouvelles réalités.
Tout à fait. Le Wirtschaftswunder a été une période de transformation extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'inscrit dans une histoire plus longue. Une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui.
C'est une excellente conclusion pour notre plongée dans le Wirtschaftswunder. On a vu comment cette période a profondément marqué l'Allemagne à la fois sur le plan économique, social et culturel. Mais on a aussi compris que ce miracle économique n'était pas sans ombre, sans défi. C'est une leçon d'histoire précieuse qui nous invite à réfléchir sur les modèles de développement, les choix de société, les valeurs que nous voulons promouvoir aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration du Wirtschaftswunder. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.